Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, pour ce nouveau podcast. Avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore une fois de m'accueillir. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et surtout en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, enfin bref, partout où vous le souhaitez, même jusqu'à Agen. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça ne remplit pas son frigo, ça flattera son ego. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité éclectique, dira-t-on.
Oui, pour tout vous avouer, je ne connais pas l'homme, mais plutôt le joueur qu'on a tous vu évoluer sous les couleurs de la France à 7, mais aussi à Béziers où il a fait ses débuts. Passé par le Racing, puis à Bayonne, c'est à Agen qu'il joue actuellement et il va nous raconter cette année particulière pour ce club qui, malheureusement pour lui, va retrouver la Pro D2 en fin de saison. Ce que j'ai pu ressentir de l'homme sur le terrain et des échos, bien sûr, que j'ai eu de quelques de ses amis qui l'ont côtoyé, c'est le bon mec par excellence. Physiquement, c'est un petit peu le Patrick Dewaer du rugby français. Et c'est le genre de type qu'il faut avoir dans son équipe. En disant Patrick Dewaer, Arnaud, je suis en train de me dire quand même que j'ai perdu les moins de 25 ans qui ne vont pas savoir. Alors, allez cliquer Patrick Dewaer sur Internet et vous ferez le parallèle avec, bien sûr, Julien Jeannet. Julien Jeannet, c'est un petit peu le mec qui est au fond du bus, bien installé au milieu de ses potes à faire le con. D'ailleurs, il nous parlera peut-être de son jeu de jambes et de sa prépa physique, bossé en équipe avec ses acolytes Mazoé et Denio et Sobat, bien sûr, au piano bar, les trois maillés. Gros danseur, on m'a dit. Julien Jeannet, c'est 4 ans en sélection avec France à 7, c'est un titre de Pro D2 avec Bayonne en 2019 et c'est surtout un joueur d'expérience qui va nous raconter son parcours, son histoire de rugbyman, son histoire d'homme à travers la France et aussi à travers le monde. Bref, il nous racontera son rugby. Bienvenue, Julien Jeannet, dans l'émission Poulain Raffut.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonjour à tous.
Bon, ravi de te retrouver, Julien. Écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Saison, comme je le disais dans le portrait, très compliquée pour Agen cette année. Agen vient de prendre encore... 59 pions à zéro contre La Rochelle. Comment tu vis cette période difficile? Alors, tu as connu les Monts, comme je disais, champion de France de Pro D2 avec Bayonne. Là, c'est une toute autre histoire à Agen. Comment tu vis cette saison particulière? J'imagine mal, bien sûr. C'est une question un peu conne, mais je vais te laisser y répondre. C'est cadeau pour introduire le podcast.
Eh bien, voilà, je vois, on rentre dans le vif du sujet. Non, mais évidemment, je la vis pas très, très bien, forcément, comme tous les joueurs. Je pense que c'est un moment un petit peu particulier pour le club, pour l'équipe, pour les supporters, un peu pour tout le monde. Le but aujourd'hui, c'est comment on va s'en sortir et comment on va relever la tête. Donc aujourd'hui, on fait un peu le dos rond. On a l'impression qu'il y a un petit peu tout le monde contre nous et un peu à juste titre. Un peu tout le monde nous tourne le dos et encore une fois aussi, je peux comprendre. Mais on s'accroche et tous les lundis, on essaye de trouver un peu de positif sur chaque match, même si... comme tu le disais, on vient de prendre une branlée, mais encore ce matin, on essaye de sortir quelques points positifs pour s'appuyer dessus, rebondir dessus et continuer. Encore une fois, ce n'est pas fini. On ne baisse pas les bras, on n'a jamais baissé les bras, même si c'est difficile. Mais on continue pour essayer d'aller chercher cette victoire qui nous manque et qui nous ferait le plus grand bien.
Justement, Julien, tu le dis, aucune victoire cette saison. Est-ce que la crainte de terminer la saison totalement fanny, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du top 14 ou du top 16, est-ce que cette sensation, elle est pesante et cette crainte, elle existe aujourd'hui dans les rangs du SUA?
Honnêtement, oui, je pense qu'elle existe et que tout le monde y pense, c'est sûr. Je pense qu'on a honte. Je pense que c'est assez compliqué dans ce contexte. Mais encore une fois, on essaye quand même de retrouver ce positif, de garder un petit peu de plus pour avancer et tenter encore une fois de montrer ben, au moins un meilleur visage, quoi. Pour préparer surtout l'avenir, quoi. On peut se dire aujourd'hui que cette saison, elle est foutue, quoi. Elle a été très mauvaise, mais bon, ce n'est pas une finalité, quoi. Ce n'est pas grave, il faut juste savoir rebondir et recréer une dynamique positive pour l'année prochaine et pour les générations qui arrivent, et pour redonner un petit peu toute cette brillance que ce club mérite, quoi.
Tu l'as dit, c'est un peu une spirale négative
C'est ça.
cette saison. C'est vrai, il y a 10 jours, le président Fontenot a piqué une colère. Il a notamment déclaré, si les joueurs ne veulent pas jouer, moi, je n'ai pas envie de les payer. Comment tu réagis, toi, à ça, et comment le groupe, pardon, a vécu cet épisode? Alors, c'est vrai que déjà, les trois premières questions sont un peu délicates, mais c'est, comme on le disait, rentrer dans le vif du sujet, savoir un peu comment le groupe peut réagir. Là, c'est plus que piqué. En fait, le président, voilà, on le sait, les présidents de club aussi, ont envie de voir des soupçons, voilà, non pas des soupçons, mais des sursauts d'orgueil de la part de leur groupe, de la part de leur leader. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour Agen, c'est compliqué pour les Suédois et pour les joueurs. Donc, comment on prend une telle déclaration dans la gueule au niveau médiatique aussi, de par son président, quoi.
Ben, forcément, ça fait mal. Alors après, il y a deux solutions. Soit tu le prends comme une pique et un coup de pied au cul pour te faire avancer, et c'est un élément déclencheur vers quelque chose de positif. Ou soit ben, tu te mets dans ton coin et tu te dis, ben, j'ai pas de chance, ça me tombe tout sur la gueule. Donc, et enfin, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe, il est plutôt dans la première solution. Ben, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment ce qui se passe, quoi. C'est un peu un jour sans fin, quoi. Où le week-end, ça se passe mal, et le lundi, ben, on revient, on rechausse les crampons, on retourne sur le terrain, toujours avec un peu d'optimisme et d'envie, quoi, de continuer, de faire plaisir aux supporters, de faire en sorte que les présidents ben, fassent moins de sorties comme ça, par exemple. Mais voilà, bien sûr qu'on est affecté. Dans ces moments de crise, ben, bien sûr, les relations humaines, elles sont un petit peu plus compliquées, il y a beaucoup moins de patience. C'est plus compliqué d'échanger, il y a un peu plus de tension. Enfin, je ne vais pas te dire que tout est beau et tout est rose, c'est pas vrai. Enfin, dans ces moments-là, il y a tout le monde qui le vit mal, tout le monde est à fleur de peau. Mais encore une fois, je trouve que tout le monde réagit plutôt bien et se projette sur l'avenir et essaye de se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à sauver et sur quoi on s'appuie pour construire le futur du club et avancer, quoi. Encore une fois, il y a toujours ce truc en tête, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Et je pense que je parle beaucoup de résilience. Et aujourd'hui, les grandes équipes, les grands hommes, les grands rugbymen, ils ont tous de la résilience en eux, quoi. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans la blessure, dans l'échec, dans les saisons comme ça, dans les injustices qu'il peut y avoir au sport de haut niveau, si tu n'as pas de résilience, ben, tu t'arrêtes, quoi. C'est fini, il n'y a plus rien. Et je pense que tu en as beaucoup parlé lors de tes conférences, à chaque fois quand tu as pris la parole. Et tous tes mots, ils avaient bouffé. J'en profite pour te faire un hommage aussi à mon tour. C'est que, il y a, je sais pas, à peu près 10 ans où tu as sorti ton livre, où tu as commencé à prendre la parole. Et ben, j'ai trouvé que tout ce que tu disais, on ne le disait pas assez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me sens dans ce rôle aussi d'amener ce côté off que les gens connaissent pas trop et même que les jeunes ne savent pas. Et c'est vrai que toi, tous les mots que tu as pu avoir toutes les mises en garde que tu as pu faire, elles ont énormément résonné en moi et elles ont permis aussi de me construire en tant qu'homme et en tant que rugbyman, quoi.
Bah
Donc,
écoute, ouais, merci beaucoup. Et c'est vrai que la base, en fait, et tu parles du bouquin et des conférences, en fait, c'est pas une volonté de dénoncer en fait un système, mais c'est d'expliquer un petit peu que c'est un sport à risque, comment tu te développes. Tu l'as vécu au Racing, on sait que ça a été compliqué au Racing. Comment tu te développes en tant qu'homme à 20 ans, 25 ans, 30 ans, cette maturité aussi, le regard des autres aussi, sur ce que vous vivez aussi à Agen, parce que c'est, appelons-le, mettons des mots dessus, un échec. L'échec aujourd'hui n'est pas accepté. Aux États-Unis, c'est accepté. En France, l'échec n'est pas accepté. Alors qu'il fait partie de la vie aussi pour se construire une fois de plus, d'arriver à tirer des leçons. Tu parles de résilience et peut-être certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. La résilience, c'est de faire de son passé une force. Mais pour faire de son passé une force, il faut avoir la capacité de s'analyser soi-même en tant qu'homme et d'analyser aussi ce qui se passe dans le groupe et de prendre ses responsabilités. Et c'est vrai que ce mot résilience, il est essentiel, comme tu le dis, dans la vie d'homme. Moi, ma volonté, quand je l'ai fait à 30 ans avec le bouquin, c'était pas une volonté d'être donneur de leçons ou d'être lanceur d'alerte, loin de là. Mais c'est d'arriver à expliquer l'échec, le droit à l'échec, la vulnérabilité, le droit de pleurer, le droit de se construire en tant qu'homme. Parce que tout va très vite et tu l'as vécu. Tu reviens de blessure, tu repars à 7, tu changes de club. Et les gens ne se rendent pas véritablement compte aussi de ce qu'on peut vivre en tant que rugbyman, surtout à Agen aujourd'hui où on voit ça de l'extérieur. Comme je disais, les gros titres, parce que ça fait vendre aussi. Mais qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se cache aussi derrière la vie d'un homme, la vie d'un groupe aussi à jeun qui vit dans l'échec? Tu mets des mots dessus, j'ai tenté de mettre des mots dessus et force est de constater que le message est passé au niveau des joueurs, mais au niveau de l'instance, c'est compliqué parce que, et pour conclure, c'est toujours compliqué aussi de se remettre en question parce que mieux vaut continuer à prendre des grands parpaings dans la gueule plutôt que d'appuyer sur pause et dire bon, quelle leçon on peut tirer de ça? Ouais.
Et surtout quand ça va mal, ou du coup, quand ça va pas, ben. On essaye, pardon, de trouver des coupables, mais sans trop forcément se regarder un petit peu à soi-même. Et c'est la facilité, quoi. Dans les moments de crise, on le connaît en plus en France aujourd'hui, on a tout le monde a ce sentiment de dire ben, c'est la faute des autres, quoi. Alors que, tu vois, s'il y avait un petit peu se regarder un petit peu dans le miroir, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est valable pour tout et tous les métiers, et toutes les situations. Et pour tout, quoi. C'est ces moments de crise qui révèlent un petit peu un côté de l'humanité qui n'est pas très sympa. Mais après.
Selon moi, on est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement, que ce soit en couple, en amitié, dans le travail. Cette capacité de retourner le miroir et de se regarder en face plutôt que de dire c'est de la faute de ta nana ou de ton mec, c'est de la faute de tes gosses, c'est de la faute du patron. Moi, je l'ai fait fut un temps, c'est de la faute de Galtier, c'est de la faute de machin. Puis à un moment, tu retournes et tu prends ta part. Reste à savoir si l'autre aussi il prend sa part. Et ça,
C'est
c'est.
ça.
Tu peux pas demander, tu peux pas changer l'autre. On voudrait changer l'autre, mais il faut déjà changer soi-même. Arnaud,
Exactement.
je te repasse la main.
Non, non, mais
Sinon,
justement,
ça va durer, ça va durer. Je pense qu'on peut faire une émission de 2 heures.
La suite, on va recentrer un peu les débats sur le côté sportif, hein, même si cet intermède psychologique est très intéressant. On parlait justement de ce travail un peu d'introspection que vous avez probablement fait tous les deux. Julien, est-ce que ce travail d'introspection, vous l'avez fait aussi collectivement pour essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles Agen se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Est-ce que par exemple, la mise à l'écart très rapide hein, de Christophe Lessuc était nécessaire? Pourtant, on sait que Christophe Lessuc, avec le travail qu'il avait fait à Mont-de-Marsan, faisait des petits miracles hein, chaque année, quasiment il se qualifiait pour les phases finales avec l'un des plus petits budgets de Pro D2. On sait qu'Agen n'a pas un gros budget. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu lui laisser peut-être un peu plus de temps? Est-ce que, enfin voilà, c'est une thématique parmi d'autres, mais ce travail, est-ce que vous l'avez fait collectivement?
Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Enfin, oui, on a beaucoup échangé ben, surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette spirale vraiment négative. Après, aujourd'hui, vraiment pour parler concrètement de pourquoi on en est là, c'est qu'à la base, je pense qu'on pêche un petit peu sur le niveau que demande le top 14, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte sur les matchs, si tu regardes tous nos matchs, c'est qu'en termes de densité, on a du mal à exister. En termes de physique, on a du mal à exister. Et forcément, à ce niveau-là, l'exigence du top 14, il est impardonnable, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui nous met. Dans le mal, et ça va tellement vite, tu le disais tout à l'heure, Raph, ça va à 10 000, et quand tu es dans cette mauvaise spirale, pour s'en sortir, c'est compliqué, quoi. Et en plus, on sait tous les événements qu'il y a eu au sein du club, avec Kiki qui est parti, on a eu un nouveau staff, donc réapprendre à avoir de nouveaux repères, une nouvelle vision du rugby, du management, etc. Ouais, c'est compliqué, mais je pense qu'à la base, c'est vraiment que. On a un petit effectif, on a eu beaucoup de blessures, on n'a pas eu assez de temps pour bien se connaître et bien jouer ensemble. On l'a vu, quand Christophe est arrivé, il y a eu pas mal de turnover aussi dans l'effectif. Ça a pêché un petit peu sur ça. Et on travaille justement sur cet état d'esprit qu'on peut retrouver lors de certains matchs, comme là à La Rochelle, même si on a pris un. Le score est un peu lourd, mais il y a par passage, on a quand même des moments un petit peu d'orgueil où on joue collectivement, où on prend du plaisir à certains moments. Donc voilà, on se rattache à ces moments-là et en se disant, vous voyez ce qu'on a vécu à ce moment-là, il faut le vivre pendant tout un match et petit à petit gratter comme ça du niveau et gratter un peu de level, quoi.
Expérience.
Ouais, c'est ça.
Expérience. Et c'est vrai que tu parlais de Kiki Lossuc, hein, de Christophe Lossuc. On a une pensée pour lui parce que c'est vrai qu'il s'est retrouvé voilà, un petit peu à. Enfin, je pense qu'il a fait le job, mais bon, on le sait que quand un club est en crise, c'est toujours un peu les têtes d'affiche qui sont les managers, les entraîneurs qui partent les premiers. Donc, Régisson est arrivé derrière, l'électrochoc attendu n'a pas eu lieu. Donc, voilà, je pense que C'est un petit peu ce que tu disais. Je pense que c'est très difficile. On l'avait vu en équipe de France quand on annonçait Bastaro qui allait sauver l'équipe de France. On attend toujours des sauveurs aussi en France. Hein. On attend un président, pareil, une fois de plus. On veut des sauveurs, on veut des sauveurs. Et puis quand ils font mal, c'est de leur faute, on les vire. Sauf que bah, y a quelques nuances en fait, à apporter à ce genre de, discours. Et c'est vrai que ouais, l'électrochoc n'a pas eu lieu avec Regisson. Donc la responsabilité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des leaders aujourd'hui qui prennent cette responsabilité avec Regisson, enfin toi en particulier justement, les mecs les plus âgés, les plus anciens qui ont cette responsabilité, comment ça se passe? Qu'on le sait qu'aussi Agen est l'un des clubs formateurs, voilà, qui est le d'ailleurs le plus, parce que il y a quand même beaucoup de joueurs issus de la formation qui sont sur le terrain, donc il faut mettre ça aussi en avant, hein. En général on le voit en Pro D2, bon, vous allez y aller l'année prochaine, mais c'est vrai qu'il y a quand même un centre de formation qui est plutôt très performant à Agen. Comment ça se passe aussi à l'intérieur? Comment on arrive à faire passer des messages aussi aux jeunes quand on est dans l'échec?
Notamment pour les jeunes, là, c'est le côté positif aussi qu'on peut trouver à cette saison. C'est que ça a permis aussi à certains jeunes de se montrer et à certains jeunes d'évoluer à ce plus haut niveau. Et pour un baptême, c'est un sacré baptême, mais au moins, ils rentrent dans le vif du sujet. Et l'idée aussi, c'est aux anciens de les accompagner au mieux dans ces moments un petit peu compliqués. Et donc, ouais, tout simplement, quoi. C'est des petits conseils. C'est leur dire qu'aujourd'hui, c'est un mauvais jour, mais que demain, ça sera certainement plus beau. Donc, c'est voilà, à chaque fois, j'insiste, mais garder sur ce côté où on ne lâchera jamais, quoi. Et quoi qu'il arrive, on rechaussera les crampons et on ira de l'avant et on se rattachera ou même à la petit truc positif, mais on trouvera toujours quelque chose à pour avancer, quoi. Et après, Julien, c'est sûr que... Pardon, excuse-moi.
Vas-y.
Non, je disais, pour les jeunes, c'est aussi le regard de l'extérieur, quoi. Et de voir que des fois, tu vois, les supporters, ils ne sont pas tendres, la presse également, mais à juste titre, et je comprends, c'est pas ça que je dis, mais c'est aussi un peu les protéger sur ça en leur disant qu'encore une fois, prends un peu de recul sur ça et serre-toi-en pour avancer, quoi.
Je pense que c'est important, juste, je te passe la parole à Arnaud, mais je pense que c'est important de te faire venir ici pour essayer de comprendre véritablement, et on le comprend au fur et à mesure de ce que tu racontes, justement, de ce qui peut se passer à l'intérieur du groupe. Parce que c'est vrai qu'en général, je le disais, hein, on lit un article, des tweets des supporters, on en prend plein la gueule, mais d'arriver justement à en parler assez simplement et pas couper, tu vois, de pas te couper, tu vois, au bout de 30 secondes et de passer à autre chose. Non, de comprendre la profondeur de ce que peut vivre le SUA aujourd'hui, de ce que peut vivre aussi, de ce que peuvent vivre aussi les jeunes, bah, ça permettra aussi à ceux qui attaquent et bah, de comprendre aussi qu'il y a une vie à l'intérieur et que il faut pas s'arrêter sur 140 ou 280 caractères. Voilà.
Julien, à 32 ans bientôt, je crois, t'as décidé de mettre un terme à ta carrière à l'issue de la saison. Là, est-ce que justement cette saison qu'on peut qualifier de sacrément galère, est-ce qu'elle a pesé finalement dans ta décision, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà anticipé bien avant de vivre cette succession de défaites?
Non, je l'avais un petit peu anticipé. Alors après, c'est sûr que ce genre de saison aussi, ça ne fait pas du bien au moral. Donc, ça, oui. Mais après, non, je l'avais anticipé. Je savais que je n'allais pas faire un vieux rugbyman. Parce que ouais, je n'ai pas été épargné par les blessures. J'ai eu beaucoup de pépins. Et voilà. Et aujourd'hui, quand tu mets 3 jours de plus que tout le monde pour récupérer... Et que ben, tu vois clairement ton niveau physique baisser, quoi, d'année en année. Tu vas moins vite, tu cours moins longtemps. C'est frustrant. Et donc, du coup, vaut mieux arrêter, passer à autre chose. Je me suis tellement préparé à l'après et à tout ce qu'il pouvait y avoir autour du rugby aussi, que du coup, bien sûr que ça va être compliqué d'arrêter un truc que tu as fait toute ta vie. Mais bon, voilà, c'est le bon moment, je pense, pour moi en tout cas.
C'est difficile de se voir vieillir.
Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à et perdre les cheveux, notamment.
Putain, tu m'as devancé, c'est ma dernière question.
C'était obligé. Je l'attendais tellement, celle-là.
Attends, ouais, parce que les gens ne le savent pas, parce qu'ils ne le voient pas. Moi, je suis chaud, je me suis d'ailleurs crasé pour l'occasion, parce que en attendant,
tu as fait ça.
Je te promets que je l'ai fait pour toi, je te promets. Non, alors attends. Non, parce que je suis rasé depuis un an. Le premier jour de confinement, j'ai dit arrête de te battre, tu prenais Rabadan dans la gueule, des réflexions des potes, tu vois. Donc, il y a un moment, j'ai pris la tondeuse et voilà. Mais là, ce midi, en plus, j'ai pris un coup de soleil, donc tu sais, il faut faire gaffe, tu verras, tu vas le connaître, tu prends un coup de soleil, donc ça rougit sur le truc. Je dois faire des photos la semaine prochaine, donc il fallait que je rase bien. Mais j'ai pensé à toi en prenant ma petite tondeuse, mon petit truc, parce que j'avais eu Julien Sobat qui m'avait raconté une anecdote. Donc voilà, les gens ne le savent pas dans le podcast, mais moi, je suis rasé et Julien a, voilà, comme dirait Rabadan, a le cheveu pauvre. Voilà, ben ouais, c'est des choses qui arrivent, voilà.
Ouais, mais bon, j'en profite tant que je peux encore, tu vois.
Ouais, bien sûr. Donc oui, donc non, je vais...
Ouais, c'est dur de se voir vieillir,
ouais. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est l'après-carrière. Ce qui nous tient à cœur avec Arnaud, parce qu'on veut en parler.
On t'entend plus, Raph.
Ouais, Raph, on t'a perdu.
Vous m'entendez ?
Là, c'est bon.
Vas-y.
C'est bon.
Oui, Julien, 32 ans, tu allais nous parler justement de ton après-carrière. J'aimerais qu'on en parle un peu. Tu t'es lancé dans de la nutrition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Ouais, il y a 2 ans de ça, avec un ami à moi, depuis toujours, qui est diététicien, on a décidé d'inventer un nouveau concept dans le secteur du coup de la nutrition et de la perte de poids. Donc, on est parti sur un constat que lui, il avait avec ses patients en cabinet. Et on a développé, on a inventé un bol qui calcule automatiquement les calories de l'utilisateur pour qu'il puisse se composer un repas parfaitement équilibré et adapté à ses besoins en fonction de ses objectifs. Donc, au lieu d'utiliser les balances alimentaires ou les calculettes de calories, il suffit juste de manger dans ce bol et ça fait une répartition parfaite pour l'utilisateur. Donc, ça fait 2 ans qu'on développe ça. On a déposé le brevet. Enfin, bref, voilà, plutôt très, 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 très intéressant. Et c'est pour ça aussi que, du coup, j'ai anticipé aussi ma fin de carrière. C'est que le monde extérieur à mon monde actuel aujourd'hui m'intéresse aussi. Et du coup, j'ai envie d'y aller et d'y plonger dedans, quoi.
Le jour où tu sors le bol, j'en veux un, parce que là, on le voit.
Écoute,
pas.
Écoute, on le sort en septembre. Donc,
Ben, très bien, tu m'en envoies un. Et moi, je te sur Instagram, j'y mets les trucs parce que j'ai une baraque à poulet, il faut que je perde un peu.
Ben, écoute, avec grand plaisir.
Voilà, tu as un peu de promo, c'est normal.
Ouais. Avant que Raph me coupe la parole, j'allais en commander 2, moi, 1 pour chaque repas. Et c'est surtout avant de devancer la blague de Raph. Bref, Raph, c'est à toi, vers qui je veux me tourner, parce que tu es aussi, tu l'as dit, sensible à tout ce qui est reconversion. Il faut savoir que Julien, si je ne me trompe pas, est aussi étudiant à la Toulouse Business School. Ouais. Voilà, c'est un sujet qui te tient à cœur, Raph, parce que tu es passé par là, tu as connu cette galère, entre guillemets, de la reconversion, hein, tu l'expliques, tu l'as expliqué dans tes conférences, tu l'as expliqué dans ton bouquin, le RSA, tu as connu. Est-ce que tu as le sentiment parfois que les joueurs oublient justement qu'il y a un après-rugby ?
Mais de moins en moins, parce que j'ai entendu justement Alban Placine la semaine dernière, et c'est pas mon ego, tu vois, ça pourrait te faire sourire Arnaud, mais c'est pas mon ego qui est touché, mais quand tu sais qu'à 40 piges, tu as laissé une trace peut-être un peu moins grosse sur le terrain qu'un de mes potes Jérôme Fiol, qu'un Pierrot Rabadan ou tout ça, mais tu as laissé une trace avec le bouquin où tu as osé parler un petit peu de l'envers du décor et aussi de l'après qui est très compliqué, la fameuse petite mort. Quand j'entends Julien aujourd'hui qui me rend hommage, j'ai l'impression d'avoir 70 ans, quoi. Je suis... Non, mais c'est... les gens sont fous, quoi. Mais au-delà de ça, oui, je me dis que j'ai laissé une trace et là, j'ai 3 boucliers, je n'ai pas joué une finale, mais moi, ma petite victoire, elle est là. Mon Parc des Princes, c'est quand tu as des mecs qui me disent ça, qui me disent « ouais, tu as laissé quelque chose ». Et donc, l'après-carrière, bien sûr qu'elle doit être prise à bras-le-corps. Je sais qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a 15 ans, et moi, j'avais arrêté aussi dans une position, j'avais 25 ans, c'était différent, beaucoup, une fracture psychologique. Donc, c'était encore différent. Mais aujourd'hui, tu as Proval qui fait aussi un gros, gros boulot. Les clubs commencent à se pencher sur le double projet. J'ai encore lu une interview de Thomas Lombard aussi qui parle de l'importance du double projet, de faire des têtes bien faites dans des corps bien faits. Voilà, penser à l'homme avant de penser au rugbyman. C'est dans un centre de formation pas très loin d'ici où il y a marqué une phrase « On forme des hommes avant de former des rugbyman ». Je te dis, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était de la branlette philosophique. Aujourd'hui c'est une thématique qui est essentielle à aborder. Quand on entend Julien, le discours de Julien qui a 32 ans, ben, si tu es un jeune de 20 ans qui va l'entendre là en écoutant ce podcast, le lien passe au fur et à mesure. Chose qui se faisait peut-être par un sujet tabou, de vulnérabilité, de petite mort, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle, dans Poulain Rafut et bien sûr ailleurs. Il faut juste démocratiser le sujet, parler de la précarrière, parler de la vulnérabilité, parler aussi justement des formations qui sont mises à disposition des joueurs, adaptation aussi de l'emploi du temps. Il faut que les gens se rendent compte que oui, c'est un métier à risque, mais... Que les joueurs aujourd'hui sont responsables et ce n'est pas le rugby que j'ai connu il y a 15 ans, et heureusement, ouais.
Julien, on va évoquer un pan de ta carrière avec toi, c'est le rugby à 7. L'équipe de France, tu l'as côtoyé durant 4 ans, hein, 2011-2015, avec notamment 2 années à temps plein, si je ne dis pas de bêtises. Quel souvenir tu gardes de ce passage à 7 ?
Ouais, un souvenir fantastique. Ça a été une période de ma vie extraordinaire, sur le plan humain et sur le plan rugbystique, sur le plan l'expérience, enfin, surtout. Ça a été vraiment, vraiment un super souvenir. Et j'y pense très souvent et ça me fait du bien.
T'as fait le tour du monde, moment. Non ?
Comment ?
T'as fait le tour du monde un peu, non ?
Ouais, j'ai fait 4 fois toutes les tournées, donc enfin tous les tournois, donc j'ai fait pas mal de pays, ouais.
C'est... Ton meilleur souvenir ?
Il y en a tellement. Wellington, à une époque, c'était vraiment quelque chose dans l'ambiance, et Hong Kong aussi, c'est particulier, c'est un petit peu la Mecque. Du rugby à 7, où il y a une ambiance un petit peu différente ailleurs, où c'est vraiment, ouais, vraiment chouette. C'est,
un petit message pour Terry Bourawa qui va jouer sa 52e saison à 49 ans.
franchement, je ne sais pas comment il fait. Non, mais Terry, après, ouais, c'est le joueur de 7 par excellence, et il met tout aussi de son côté pour durer autant de temps, et c'est quelqu'un de très sérieux et qui a porté le 7 franchement à bout de bras pendant de nombreuses années et qui a fait beaucoup de bien à ce sport.
Tu l'as vu évoluer justement le 7. Est-ce qu'à ton époque c'était vraiment pris au sérieux par les gérants de la FFR? En clair, est-ce que vous aviez les moyens de bien vous préparer pour être concurrentiel? On rappelle aujourd'hui devant vous avez les Fidji, vous avez les Blacks, vous avez les Australiens, les Sudaf. On a vu cette évolution, mais qui a mis beaucoup plus de temps que d'autres fédérations qui ont vraiment donné les moyens aux joueurs. Donc, ma question est un peu conne parce qu'en fait, on a la réponse dans la question, mais moi, je voulais avoir ton point de vue sur cette évolution. Ouais.
Mais oui, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai signé le contrat pro avec la Fédé, c'était déjà très professionnel et ils avaient mis pas mal de choses pour nous et pour bien s'entraîner, tout était très, très bien fait. Et après, oui, bien sûr, ça a bien évolué en ce sens. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quand même de meilleurs résultats et petit à petit, ça évolue dans le bon sens. Après, il y a un niveau, encore une fois, là, je parlais de l'exigence du top 14, mais l'exigence du 7 aussi, c'est incroyable et on n'arrive pas à s'en rendre compte parce que c'est difficilement palpable, mais il y a un niveau et tu peux jouer n'importe quelle équipe et tu peux être sûr que ça va être compliqué, quoi. Donc, c'était une expérience vraiment inoubliable pour moi.
Justement, Julien, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu cette vie de setiste. Fred Pomarel, l'ancien entraîneur de l'équipe de France que tu as bien connu, disait que c'était une vie de saltimbanque. un coup à Vegas, un coup en Australie, le lendemain à Hong Kong. Tu confirmes que c'est une drôle de vie quand même ?
Ouais, c'est une drôle de vie. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas encore fondé de famille ou tu as moins cette attache-là. C'est intéressant à vivre et encore une fois en termes d'expérience et de choses vécues, c'est fantastique dans la construction d'un rugbyman et d'un homme. Et oui, on partait 3 semaines, on rentrait 3 semaines, on repartait 3 semaines, on rentrait 3 semaines, on repartait 3 semaines. C'est que ça pendant 3 ans, c'était que ça. Donc, mais au bout d'un moment, ça use et c'est pour ça aussi que le 15 me manquait terriblement et parce que c'est totalement différent dans l'enchaînement des matchs ou dans l'esprit compétition ou dans la vie de groupe, c'est différent. C'est pour ça que je suis parti à Bayonne après le 7.
Comment tu juges l'évolution justement du rugby à 7, tant féminin que masculin? Qu'est-ce qui manque en fait? Quelle étincelle ou qu'est-ce qui manque pour être mieux reconnu, pour être mieux valorisé? On pensait qu'avec l'arrivée des JO, ça allait, la notoriété allait exploser. Là, ça a fait connaître le rugby à 7 sur le plan mondial. Mais quel ingrédient il manquerait justement pour que le rugby à 7 soit... ne prennent pas le pas sur le rugby à 15 qui est bien devant.
Tu viens de dire la réponse et c'est la comparaison qu'il y a avec les autres nations qui dominent le monde. C'est que chez eux, là-bas, c'est d'abord le 7 et après tu vas à 15. D'accord. Et donc, c'est des 7istes et qui deviennent après des 15istes. Nous, en France, on est tous des 15istes et on essaye de jouer à 7. Donc forcément, c'est une différence de culture et la France, elle est... Tu sais, des cultures bien ancrées ou difficiles à bouger, et, tu vois, c'est compliqué. Donc forcément, le 7, il passera toujours un petit peu sur le second plan. Même si, quand même, aujourd'hui, on arrive à avoir des joueurs d'un très, très, très grand niveau en équipe de France. Donc, c'est quand même un bon signe pour la suite. Mais je pense que les clubs aussi vont en ce sens avec les tournois qui est organisé là.
Le Super 7.
Exactement, j'allais le dire. Du coup, c'est, ça, c'est bien pour justement, ça crée un vivier et ça permet aussi à l'équipe de France de pouvoir piocher dans tous ces joueurs, quoi.
Julien, tu as évoqué le sujet, justement, le fait de revenir à 15, de repartir sur une discipline qui est diamétralement différente, hein, on ne va pas se mentir, et tu pourras confirmer. Ce choix de repartir à 15 à un an des Jeux Olympiques, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que de l'extérieur, on se dit que bah, quand on est sétiste, que les JO de Rio, en plus à Rio, enfin voilà, ça doit être une expérience juste formidable. Est-ce que ça a pesé? Est-ce que voilà, il n'y a pas de regret aujourd'hui?
Bon, il n'y a aucun regret, mais bien sûr, ça a pesé parce que les JO, ben, je pense qu'en tant que sportif de n'importe quel sport, c'est un rêve pour tout le monde. J'avais terriblement envie de retourner à 15 et je suis quelqu'un qui prend des décisions un peu au coup de tête. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité, et notamment avec Bayonne, je n'ai pas du tout réfléchi. Je crois qu'en 15 minutes, c'était fait. Et voilà, à chaque fois qu'il y avait un train qui partait, je l'ai pris. Donc. Et non, je ne regrette pas du tout parce que l'année où j'arrive à Bayonne, c'est l'année où je vis personnellement ma meilleure année rugbystique autant que, émotionnellement que tout le reste. Donc, aucun regret, même si, bon, forcément, j'aurais bien aimé quand même goûter à cette ambiance des Jeux Olympiques. Mais bon, c'est comme ça, pas de regret.
Dernièrement, tu as déclaré aussi… c'est bien d'être de bons joueurs, mais être des hommes, c'est autre chose. Tu peux développer. On en a un peu parlé. Je pense que c'est le discours que tu as depuis le début et l'échange qu'on a pu avoir. Mais j'aimerais avoir ton point de vue, que tu puisses développer thèse, antithèse, synthèse à 10 minutes.
Non, je pense que c'est important de faire un travail sur soi-même et d'évoluer pour bien évoluer dans ce monde. Et c'est aussi se protéger, comme tu disais tout à l'heure, sur. Les aléas du sport et la blessure et la fin de carrière qui peut être prématurée. Et j'ai mis un peu de temps, moi, à avoir cette maturité et à comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu chiant avec les jeunes et j'essaie de leur faire passer ce message-là. Mais c'est important, oui, de devenir des hommes parce qu'avant tout, pour se respecter dans un groupe, il faut pouvoir s'élever et pouvoir avoir des relations cordiales. Et ça passe avant le joueur de rugby, quoi. Et je pense que c'est très, très, très important pour ce sport et pour la vie en général, quoi.
Pour la vie en général, je suis désolé parce que là, c'est trop, trop passionnant pour que je ne pose pas la question. Pour la vie en général, on voit, je sais, je vais être, mais d'ailleurs, c'est les discussions qu'on avait eues avec Safia Ndiaye, et on voit l'évolution aussi du statut de la femme qui peine à exister, est-ce que ce n'est pas aussi de notre responsabilité de nous révolutionner aussi en tant qu'hommes, notre génération, la tienne, la mienne, la nôtre, Arnaud, de se révolutionner en tant qu'hommes pour pouvoir justement leur laisser la place à nos côtés et prendre notre place à leur côté? Ça veut dire remettre en question le patriarcat, et on est quand même dans un sport très patriarcal, remettre en question aussi le côté dionysiaque de ce sport héroïque, et tu le sais, hein, chaque fois que tu rentres dans un stade, bon, pas en ce moment parce qu'il y a des gains, mais quand tu rentres dans un stade, il y a tout ce côté... un peu mythologique derrière, toute cette remise en question, comment on s'accroche justement, et je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'avoir des figures tutélaires, des référents comme toi, comme les anciens qui prennent un peu la parole et qui leur parlent un peu dans la bouche, et puis à nous aussi de prendre conscience que la société évolue et qu'il faut évoluer avec elle. Et on le voit aujourd'hui dans l'actualité, les féminicides et tout ça, et je vais plus loin, c'est vrai que je vais peut-être loin, mais il y a un moment où... personne aujourd'hui ne prend la parole sur nos évolutions, sur les doutes à devenir un homme, sur on ne peut plus se comporter comme nos parents se sont comportés, on ne peut plus se comporter en tant que rugbyman aujourd'hui comme les anciens se sont comportés aussi. Et heureusement que les règles ont évolué, il y a moins de coups. Certains trouvent ça chiant, mais en attendant, c'est aussi une évolution normale, je dirais, de notre société. Donc, comment toi, dans ton évolution, alors pour revenir à cette question, comment toi, dans ton évolution à 32 ans, tu voilà, arrives à évoluer, à prendre conscience de tes échecs, de tes doutes, et puis voilà, c'est une question qui est essentielle aujourd'hui et qui est centrale dans l'évolution de l'homme, quoi. Et on parle du sport masculin, donc un point de vue d'un joueur, quoi, mais d'un homme.
Ben non, tu l'as dit, je pense qu'il faut savoir s'adapter et il faut savoir évoluer. Et comme tu le disais, faut aller dans le même rythme que la société aussi et dans le monde actuel, quoi. Donc forcément, il y a tous ces problèmes qui sont soulevés, il y a certaines choses qui sont remises en question, et souvent toutes ces remises en question, elles sont un peu prises comme quelque chose de négatif, parce qu'on vient un peu changer quelque chose qui ça fait des années que c'est en place. Donc, mais je pense que quand même, petit à petit, on va dans ce sens et il y a tout le monde qui fait en sorte de voilà d'évoluer avec avec la société. Et je pense qu'il y a beaucoup quand même d'avancées sur ça, sur le rugby féminin, où tu prenais l'exemple, où on le voit de plus en plus à la télé, où elles sont de plus en plus à la une de certains journaux, de certains reportages. Je trouve que quand même, c'est très bien pour ce sport, c'est très bien pour les filles. Et c'est aussi à nous aussi de faire en sorte que de leur laisser un peu de place, quoi, tout simplement. C'est un peu à tout le monde, quoi, et aux diffuseurs et aux journalistes. Et si un peu tout le monde fait un peu d'effort, pardon, ça peut que aller dans le bon sens.
Julien, je voudrais rebondir sur cette phrase que tu avais utilisée, je crois, dans une interview lorsque tu as annoncé la fin de ta carrière à l'issue de la présente saison. Tu disais donc c'est bien d'être de bons joueurs, mais être des hommes, c'est autre chose. Il y a un exemple, un garçon que tu as côtoyé durant une saison, je crois, à Agen, c'est Xavier Chauveau, ouais, qui à 27 ans a décidé lui de prendre ses clics et ses claques et de quitter le monde du rugby pro. J'aimerais avoir ton sentiment, toi qui l'as côtoyé, est-ce que tu as senti venir sa décision? Est-ce que tu avais discuté avec lui? Est-ce que tu as compris ce choix? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais il y en a une dernière et qui me semble aussi intéressante, c'est est-ce que tu as le sentiment qu'on va vers plus de joueurs qui prennent ce genre de décision?
Alors, pour Xavier, ouais, j'étais très, très proche de lui et je l'avais croisé au Racing déjà, donc il y a déjà une dizaine d'années. Mais oui, je comprends totalement sa décision. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout d'un cycle, et un cycle d'hommes, encore une fois, où il arrivait à la fin de cette carrière de rugbyman, il prenait plus tellement de plaisir. Donc forcément, au lieu de rester pour rester, je trouve ça encore plus honorable de se dire c'est bon, c'est plus pour moi. Même si c'est sympa d'être rugbyman, c'est pas grave, je vais faire autre chose et me retourner sur quelque chose qui me rendrait peut-être plus heureux ou plus épanoui. Donc je trouve son choix très noble et je sais qu'aujourd'hui, il est plutôt heureux dans sa nouvelle vie et il ne regrette pas son choix. Donc après, c'est sûr, encore une fois, que c'est difficile d'arrêter du jour au lendemain, même si tu le veux et même si tu es prêt. Et pour revenir aussi sur ta dernière question, je pense que oui, ça va de plus en plus. Il va y avoir des arrêts de carrière jeunes, d'une part sur les blessures, sur les corps qui vont de plus en plus se fatiguer plus rapidement. Et aussi, ça va tellement vite, il y a une exigence de dingue. Donc forcément, les gens, au bout d'un moment, tu peux en avoir marre, hein, comme dans tout. Et c'est une passion, mais il peut y avoir un côté raison qui peut prendre le dessus et se dire, bon, maintenant, stop, quoi, pour diverses raisons, quoi.
Est-ce que selon toi, je pèse mes mots, hein, parce que j'ai été dans la machine à laver, hein, j'ai été dans le bordel, est-ce que le rugby professionnel est aujourd'hui devenu une machine à broyer? Alors c'est peut-être un peu fort comme terme, mais je le pense vraiment, une machine à broyer les joueurs. On le voit encore avec le calendrier démentiel de cette fin de saison, justement, où c'est hallucinant. Même, bon, d'accord, il y a le contexte sanitaire, mais c'est quand même un sport, on le disait, un sport à risque. Et tu parlais des corps vont de plus en plus être blessés, mais en fait, c'est d'actualité, quoi. Ce qu'on voit toutes les semaines, tous les week-ends, tu vois un gonze sortir du terrain. Donc, on a d'ailleurs une pensée à tous les blessés. En général, c'est « Oh, ah ouais, bon courage pour la suite. » Et puis, le mec est un petit peu oublié. Tu l'as vécu, c'est compliqué. Moi, la question, c'est, voilà, on sait que c'est un sport à risque, mais est-ce que c'est pas une… C'est marrant parce que c'est à Bayonne où, quand j'avais fait la tournée en 2013, il y avait le responsable du centre de formation de Bayonne qui m'avait dit « Mais on sait qu'on fait de la chair à canon. » On le sait, mais on n'a pas le choix. C'est chaud d'entendre ça. Tu sais, moi, j'ai fait la tournée, c'était en 2013, j'avais 33 ans et je voyais les gamins de 20 ans. J'avais toute une génération de mecs, mais qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo qui a tourné sur YouTube, qui a beaucoup tourné. On voit toute cette génération-là et ce mec-là en off qui vient me voir et qui me dit « Mais ouais, en fait, on sait qu'on fait de la chair à canon. Wow, » c'est violent, je trouve que c'est violent. Alors, ce n'est pas de cracher dans la soupe que de parler de cette génération dont tu fais partie. Moi, je suis la génération juste…
C'est juste une mise en garde.
Ouais. Mais quand tu entends quand même que l'un des acteurs principaux de la formation d'un jeune te dit ça, wow, tu te dis, mais ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Je pense que c'est propre à tous les sports de haut niveau et à tout ce qui est extrême, quoi. Donc, tout ce que tu fais Tous les extrêmes sont compliqués, quoi. Donc, et le sport en fait partie. Et encore plus dans cet esprit de compétitivité où tu sais que des fois, ben, tu n'as que match pour saisir ta chance. Donc, forcément, ben, ton corps et ta santé, elles passent de côté, quoi. Et tu l'as vécu, je l'ai vécu. Tu joues blessé, tu joues avec des commotions. On l'a tous fait. Et ça existe encore aujourd'hui, même si, quand même, je trouve que ça va encore une fois dans le bon sens, que les clubs sont quand même bienveillants envers ces joueurs, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même la santé des joueurs qui est quand même mise un peu sur le devant de la scène, et on fait, à mon sens, quand même attention, même si, encore une fois, ça doit encore évoluer, à mon sens, quoi.
Mais pour toi, Julien, tu as le sentiment que ça va, enfin, que le rugby a pris conscience de sa, comment j'allais dire, de sa problématique principale. C'est-à-dire que on s'est longtemps posé la question de savoir si le rugby ne tuait pas ses soldats. Voilà, on a le sentiment qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses de faites, notamment avec le protocole autour des commotions, que on voit les dirigeants de clubs aujourd'hui incitent peut-être à différents degrés selon les clubs, évidemment, mais incitent leurs joueurs à suivre des doubles projets. Parce que le risque de blessure, on l'a dit, on l'a répété, n'est pas mince. Tu as le sentiment, globalement, qu'on va quand même vers une prise de conscience générale et une évolution positive?
Je pense et j'espère. Et non, non, je pense, franchement, je pense. Et j'aimerais aussi pouvoir m'investir dans ce sens pour l'après, quoi. Et de toujours garder à l'esprit qu'il y a ce côté santé, ce côté reconversion, ce côté construction d'homme qui est hyper important dans la construction d'un jeune joueur de rugby, quoi. Et c'est les plus jeunes qu'il faut, dès le plus jeune âge, les avertir sur tout ça, quoi. Parce que tu sais commencer, et tu l'as vécu à 18 ans, tu fais ton match. La presse, le truc, la télé, c'est génial. J'ai la dotation, j'ai les crampons que mon agent m'envoie. C'est trop bien, je suis le roi, mais 2 jours après, tu n'es plus le roi. Donc, ça va tellement vite. Et je pense que dès que tu le sais, que c'est ancré en toi, ben, tu fais tout différemment, quoi. Et le plus tôt tu l'as, et je pense qu'aujourd'hui, tous les grands, les très grands joueurs, c'est des gens qui ont compris ça très tôt. Et tu le vois, les très grands joueurs. Et c'est des gens qui sont très posés, qui sont très matures. Même les jeunes joueurs qui explosent très vite, c'est des jeunes joueurs qui sont très matures, qui sont pareil, très posés. Et ça fait partie, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, de la construction d'hommes, quoi. Et c'est un ensemble.
Et puis c'est en écoutant ce genre de discours aussi que les jeunes peuvent aussi comprendre voilà, le principe de maturité.
Oui.
Mais c'est difficile aussi à
C'est
18,
très
19,
dur, mais c'est très dur, mais bien sûr,
20 ans, tu
après.
vois, de te dire, putain, il faut que je sois mature, faut que je sois. Enfin, en tout cas, pour une personne comme moi qui était dans l'extraversion, qui était complètement débile, il faut le dire. Mais
Non.
non, très peu. Mais non, mais c'est vrai qu'après, moi, je n'étais pas non plus dans la matrice, j'ai un centre de formation et tout. Mais je vais te dire, à force est de constater qu'il y a un tamac qui pue la sérénité, que.
C'est l'exemple.
Ouais,
Oui,
c'est
tu rappelles que tu venais de Beauvais, c'est ça. D'ailleurs, on l'a compris quand tu lui as dit Patrick Dewaere au lieu de Patrick Dewaere, mais on
Dever,
sait.
non?
Je crois que c'est Dewaere, ouais, mais
Je
à Beauvais,
préfère.
chez Raph, on dit Patrick Dewaere.
De
Je n'ai rien à rajouter. Ça, c'était vexé parce que j'ai dit 2, 3 fois question conne, parce que tu sais que c'est toi qui fais les questions.
Voilà, c'est exactement. Mais j'ai juste rétabli la vérité, moi, parce que le pauvre, il va se retourner dans sa tombe.
Bon, pour parler de choses un petit peu plus, on va dire, positives que. En tout cas, que cette fin d'interview, moi, j'aimerais savoir quel est. Je ne t'enterre pas, Julien, loin de là. Hein, vraiment, je sais que tu as une fin de saison, que tu as une après-carrière qui est pas toute tracée, mais bon, tu vas relever le challenge. Mais moi, je voudrais avoir ton meilleur souvenir. Est-ce que c'est cette finale à Bayonne? Est-ce que c'est un souvenir de rugby à 7? Est-ce que c'est un souvenir aussi à Béziers? On rappelle que c'est là que tu as commencé ta
Oui.
carrière pro, on va dire, en 2008, c'est ça, si je me trompe?
Ouais. 2007, je crois, le premier match. 2007, je crois,
Ouais.
mais je sais même plus les dates. Je...
2007, on va dire, bah, ça fait 14 ans dans le bordel. Donc en 14 ans, est-ce que tu en as un à sortir?
ouais, non, je pensais, ouais, la finale de Bayonne cette année, elle était vraiment particulière à tous les sens du terme. Franchement, c'était une année ovni, quoi. C'est incroyable à vivre. Et quand on voit au bout ce qu'il y a, c'est. Assez fantastique ce qui s'est passé. Donc, ouais, je pense que c'est cette année qui. Mais après, j'ai tellement vécu de choses avec le 7, avec. À chaque fois que je suis passé à un endroit, j'ai rencontré des mecs extraordinaires qui m'ont fait grandir. Et voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tous ces gens et d'avoir vécu toutes ces expériences, quoi. Mais Bayonne, ça reste un petit peu plus particulier, quoi, pour moi.
Ouais, c'est chouette. Bon, en tout cas, Julien, merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière question, bien sûr, mais bon, tu as déjà mis les pieds dedans. Donc, c'était une question de Julien S de Biarritz. Donc, vous pouvez le balancer, hein, c'est saucisse, c'est Julien Sobal. Pourquoi cette coupe de cheveux? Moi, j'aimerais juste rajouter, crois-tu qu'il soit possible, si Agen gagne un match d'ici à la fin de saison, qu'à la 80e minute, tu cours dans ton sac chercher la tondeuse et que tu te rases en
Écoute,
direct?
mais sans problème.
C'est vrai?
Ouais, et j'espère vraiment qu'on va en gagner. Vraiment. Ça pourrait faire du bien à tout le monde. Bon, même si ça me ferait de la peine de me regarder dans le miroir, mais j'espère vraiment pour tous les gens qui le méritent et qui bossent pour ce club, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que les joueurs, et il y a beaucoup de personnes qui bossent pour faire changer les choses et pour faire du bien à ce club. Donc, ça serait bien pour tout le monde, pour la ville, les supporters. Donc, j'espère vraiment. On va tout faire pour, en tout cas.
Julien, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu de l'interview dans Poulain Raffut. J'étais ravi de te recevoir. Je pense que Arnaud, c'est pareil. C'était un plaisir
Ouais,
partagé.
plaisir partagé parce que je trouve que le cursus de Julien est atypique, il est riche et je crois qu'il y a des jeunes qui devraient s'inspirer de ce parcours-là. Pour certains jeunes qui préfèrent cirer les bancs des clubs professionnels de top 14, aller jouer à 7, c'est hyper formateur. Julien l'a dit, dans les autres pays, souvent la culture est inverse. On passe par le 7 avant de venir au 15 et souvent ça fait de meilleurs joueurs. Je crois que voilà, c'est un parcours riche. Et le discours était teinté de lucidité, et je crois qu'on en a bien besoin en ce moment dans le rugby professionnel français. Donc un grand merci, Julien, pour ce moment de vérité et j'allais dire d'introspection. C'est un mot que Raph aime bien.
Merci beaucoup, merci à vous et merci pour ce moment super sympa.
Alors, tu m'as envoyé les fleurs et je vais juste conclure tout à l'heure. Merci. Mais je pense que la fleur qu'on peut s'envoyer, Arnaud, c'est quand même depuis qu'on bosse ensemble, et je mets aussi Olivier Canton dans la boucle, franchement, on ne se déchire pas trop sur les castings. Hein. Les
Non,
mecs sont plutôt bons quand même. Hein. Donc,
c'est
je te rends, je te renvoie la fleur que tu m'as envoyée,
vrai.
Julien. En tout cas, je te souhaite
C'est
la
gentil.
vérité.
Mais tu sais que je le pensais vraiment. Hein. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand tu m'as envoyé ton message, parce que je me suis dit, c'est bizarre, l'impression que la boucle est bouclée, quoi, tu vois.
Ah, écoute, je suis ravi d'avoir pu, je dirais, t'inspirer avec ce
Non, mais c'est
livre, avec
vrai.
la vidéo. Vraiment, vraiment. Et puis, je te dis, moi, quand j'ai des retours de mecs, je trouve ça. Ouais,
C'est
tu
tellement
dis que tu as laissé une
important.
trace. C'est vrai.
Il y en a très peu qui le font et c'est tellement important de vécu ça et parce qu'on véhicule que les moments de gloire, de trucs comme tu parlais de l'échec que personne n'en parlait, mais c'est tellement important de le dire et de mettre des mots dessus et voilà, donc c'est quelque chose qui résonne. Ouais. Donc,
Je suis en train de travailler sur une conférence que je vais mettre en ligne et ce sera. Parce qu'en fait, les gens n'ont vu que les 8 minutes de la conférence que j'ai faite à Marcoussis en 2013. Mais là, j'ai 1 heure et demie que je veux mettre en ligne et puis on mettra ça. Et puis plus il y a clic, plus je me ferai d'oseille. Et puis voilà, puis
Eh bien,
après, je
écoute,
me casse.
je te mettrai quelques clics alors.
Allez, c'est gentil.
Bon,
Non.
merci en tout cas.
Ouais, merci beaucoup. À très
Merci à
bientôt, Julien.
vous.
Bonne fin de saison. Une victoire.
Merci.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce week-end, c'est à. Coupe d'Europe de rugby, donc voilà, que le meilleur gagne. Et bien, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Arnaud, salut Julien.
Ciao, ciao.